APH déroule le tapis rouge à la rencontre cinéma de Pézenas. Retrouvez chaque jour les intervenants, les cinéastes et l'équipe du festival.
Traduit mi ai les
anneaux, voilà.
Oui, c'est ça. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci de m'avoir invité.
Quelques moments avec les auditrices et les auditeurs de Radio Pays des Roues. Vous êtes actuellement à Pézenas pour participer à la 62e rencontre de cinéma de la ville.
Exact.
Qui se déroule du 21 au 27 février 2025. Vous allez participer à cette rencontre en présentant trois films, Va, vie et deviens, Le concert et La source des femmes.
Tout à fait.
Pour reprendre un petit peu votre biographie, vous êtes né à Bucarest, vous êtes fils d'un journaliste. En 1980, vous quittez la Roumanie, qui est à l'époque sous la dictature de Ceausescu, pour émigrer vers Israël. Puis vous venez en France, vous étudiez le cinéma à l'IDEC, et vous allez commencer en tant qu'assistant réalisateur, et pas d'un réalisateur des moins importants, puisqu'il s'agit de Marco Ferreri. Le fait que votre père était journaliste, le fait que vous ayez quitté la Roumanie, que vous ayez émigré, que vous soyez arrivé en France, est-ce que ce sont des éléments qui expliquent votre vocation pour le cinéma, votre façon de faire du cinéma?
La façon de faire, certainement, c'est-à-dire les sujets qui me touchent et que j'aborde, ça, forcément, comme tout être humain, on est fait des couches de choses qu'on a vécues ou dont on a hérité de nos parents et nos aïeux. Mais forcément, la trajectoire de ma vie, qui est voilà, le hasard de ma vie, la dictature, l'immigration, l'adaptation, et aussi, quelque part, atteint par cette dictature, le fait que, à jamais, je me battrai d'une certaine manière, là, de manière artistique, si je peux dire, pour la liberté, pour la justice et pour le merveilleux humain. Voilà, certainement, c'est le résultat de tout ce que j'ai vécu. Mais ça, c'est pour chaque être humain. C'est-à-dire, chaque être humain, et heureusement, nous sommes tous différents, et nous avons tous des trajectoires différentes. Et à travers ce que nous exprimons, nous racontons un tout petit peu le monde tel que nous le voyons et que nous l'avons vécu et que nous continuons à voir, bien évidemment.
On souligne souvent votre engagement social et politique fort.
Côté culturel, avec l'espoir que la culture et l'éducation peuvent influencer politiquement, en tout cas des citoyens, à s'engager pour la démocratie. Que ça soit de n'importe quelle couleur politique. Encore une fois, ce n'est pas à moi de décider les choix des gens, mais je milite fort pour la République et pour la démocratie. Que ça soit de droite ou de gauche, chacun est libre de choisir. Mais je suis très engagé du côté de la culture depuis très longtemps, depuis une trentaine d'années maintenant. Et j'essaie avec d'autres collègues d'influencer quelque part les lois françaises et européennes. Même la semaine dernière, je suis allé à Bruxelles mercredi pour m'entretenir avec des parlementaires européens au sujet des lois en vue sur le cinéma et l'audiovisuel.
On dit que vous savez mettre en scène des personnages particulièrement riches et très pittoresques. C'est quelque chose que vous travaillez
C'est quelque chose qui m'habite, hein, c'est-à-dire on ne choisit pas intellectuellement. C'est des choses naturelles qui sont forcément au fond de moi-même. Donc je viens de Roumanie, qui est un pays latin, mais au milieu entouré de pays slaves, pas loin des Balkans, donc aussi des Balkans de Kusturica. Donc disons, ce merveilleux chaos et mélange d'ethnies, de langues, de genres, de spiritualité humaine, si je peux dire, et d'humeur humaine, m'habite inconsciemment. Donc forcément, ça se retrouve à l'écran, avec toutes ces nuances, mais ce qui m'impressionne à chaque fois, malgré les temps difficiles que nous vivons en ce moment, c'est quand même le merveilleux humain, et qui surgit pas que dans les qualités, parfois aussi dans les défauts, mais j'aime bien traiter avec humour l'imperfection de l'humanité. Donc voilà, j'adore avoir dans mes films une très grande multitude de couleurs humaines.
Pour avoir vu certains de vos films, j'ai été sensible à la façon dont vous construisez le récit. Au fur et à mesure qu'on rentre dans le film, bon, l'action se déroule. Et à certains moments, on a l'impression qu'on est arrivé au dénouement ou au bout de cette action. Et puis tout d'un coup, vloum, quelque chose survient dans le récit qui fait que l'intérêt et le plaisir est relancé.
Bien sûr. Ah, disons, il y a deux tactiques, si je peux dire, et deux techniques d'écriture. D'une part, je viens du théâtre, donc dans le théâtre, il y a toujours trois actes. Il y a l'introduction, le corps principal et le final, si je peux dire, la résolution. Mais moi, j'aime bien, comme vous dites, parfois donner une trajectoire au début à mes personnages et au film, et après apporter ce que j'appelle la seconde fusée, comme des fusées qui vont dans l'espace. Il y a la première qui lance la fusée, et il y a la deuxième qui est une surprise, qui, alors qu'on pense savoir tout de la trajectoire de l'histoire, et on risque de s'endormir un tout petit peu, commençant déjà à projeter dans nos têtes comment ça va se résoudre, cette histoire-là, de changer de voix et de demander au spectateur à la fois un effort et à la fois de se réjouir d'avoir eu tort et de lui donner encore une autre piste.
Pendant la rencontre cinéma de Pesnas, vous allez présenter trois films.
Ouais.
Le premier qui était inscrit au programme, c'était le concert.
Tout à fait.
Comment est né ce projet du concert ?
Donc d'abord, c'est un producteur qui m'a apporté ce qu'on appelle un traitement, c'est-à-dire un résumé d'une vingtaine de pages, écrit par deux jeunes auteurs français, où il parlait, inspiré d'un fait divers, d'un faux orchestre du Bolchoï qui se serait rendu, qui se rendrait à Paris. Donc j'ai lu le traitement, bon, qui était intéressant, c'est-à-dire en tout cas cette proposition m'intéressait beaucoup. Après, les deux jeunes gens ne connaissaient pas les pays de l'Est, ne connaissaient pas la Russie, donc il y avait plein de choses qui me correspondaient moins. Donc en accord et avec les jeunes auteurs et avec ce producteur, j'ai gardé l'idée initiale, puisque ça me correspondait beaucoup. En plus, l'imposture qui revient souvent dans mes films. Et j'ai développé autre chose avec toute cette bande d'ex-musiciens du Bolchoï. Et j'ai d'abord fait un voyage à Moscou avec mon meilleur ami qui est mon co-scénariste Alain Michel Blanc. On a passé des moments incroyables là-bas parce que comme je suis fils de journaliste, comme vous l'avez dit, j'aime beaucoup, avant d'écrire vraiment, aller sur le terrain, interviewer énormément des gens. Et souvent la réalité, elle est plus forte même que notre imagination. C'est-à-dire on ne croirait pas que ça pouvait arriver et finalement ça arrive. Donc il y a souvent des choses qu'on nous raconte qui atterrissent directement dans le scénario ou qui peuvent changer le cours de nos scénarios parce qu'on nous dit une réalité qui est un peu différente. Et j'adore ce moment journalistique, si je peux dire. Ça m'alimente beaucoup de vérité et parfois même de détails psychologiques des personnages. Donc voilà, suite à ce voyage très riche à Moscou, on s'est mis à écrire. Et là, on savait qu'on tenait une belle histoire et un beau dialogue presque, ce qui est très contemporain aujourd'hui. Le film raconte aussi ça, un dialogue entre l'Est et l'Ouest. Est-ce que l'Est et l'Ouest se comprennent ? Est-ce qu'ils sont en conflit ou est-ce qu'ils peuvent réaliser quelque chose ensemble ?
Il y a toujours dans vos films une dimension assez universelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'on dise que ce film, Le Concert, est une fable chaleureuse sur la revanche des humiliés ?
Tout à fait, oui, oui. Et souvent dans mes films, ce que j'appelle, c'est les gens qui sont mis à genoux par des faits de leur vie, que ce soit politique ou humaine, j'aime bien suivre leur itinéraire lorsqu'ils essayent, et souvent ils arrivent à se remettre debout, à regagner leur dignité. En fait, c'est souvent ça mes films, avec des histoires très différentes, et Le Concert, c'est principalement ça. Des gens qu'à un moment historique de la Russie, donc sous Brejnev, Ils ont mis beaucoup de gens à genoux, ils les ont humiliés. Ces gens-là étaient censés ne plus jamais se relever. Mais en regagnant un peu de confiance et en essayant, en cherchant de regagner à leurs yeux et aux yeux des autres leur dignité humaine, qui est indispensable pour tout humain, ils se remettent debout et ils créent alors qu'il ne pensait pas être capable, il crée du merveilleux.
On ne peut pas ne pas parler à propos du film Le Concert, de quelque chose qui est quand même excessivement, que j'ai trouvé excessivement important dans tous vos films, c'est la musique.
Tout à fait. Ah oui, pour moi, la musique est primordiale dans le cinéma. Le cinéma est un dialogue entre beaucoup d'arts, entre la littérature, le théâtre, la musique, la danse, le rythme. Le rythme au cinéma est indispensable. C'est pour ça qu'on parle beaucoup, pas seulement de la rythmique qu'on donne au tournage, au jeu d'acteurs, mais la rythmique qu'on doit absolument trouver au montage et qui se construit bien en amont. Donc pour moi, la musique est indispensable et parfois la musique raconte, elle est complémentaire à l'image. C'est-à-dire j'essaie de ne pas raconter par l'image ce que je sais que racontera la musique, qui est quelque part l'âme invisible du film. Et il y a des films, je sais, au montage, qui ne me satisfaisaient pas tout à fait, et où la musique, tout d'un coup, leur a apporté un souffle. C'est-à-dire, l'image était pour moi incomplète, sans cet élément invisible. Je crois que... Et c'est la vie. La vie, heureusement que nous avons des imaginaires, la vie, elle est constituée du visible, et d'énormément de perceptions invisibles, dont pour moi, la musique est quasiment l'art suprême.
Cette notion de rythme, on la retrouve aussi dans votre façon de monter.
Encore une fois, je compare tout à la musique. Encore une fois, je me répète, la musique étant pour moi l'art suprême, la musique, c'est du rythme. C'est du rythme et c'est quelque chose que j'ai appris récemment par mon ami et compositeur Armand Amar qui fait tous mes films. En fait, l'être humain possède 75% d'eau. Lorsque vous faites, par exemple, vous jouez de la musique à côté d'un récipient d'eau, vous voyez l'eau frémir. C'est-à-dire la musique, c'est des fréquences qui envoient donc des fréquences, même l'eau qui ne bout pas. Mais vous avez l'impression que l'eau est en train de bouillir. La musique, c'est celle qui agit le plus profondément sur l'être humain, sur les 75% d'eau qui sont en nous. Donc ce n'est pas qu'au niveau intellectuel, c'est à tous les niveaux. Donc ayant ce modèle-là, et cette rythmique-là, le cinéma est rythme. Donc ce rythme-là s'engage et se réfléchit très tôt. C'est-à-dire si un jeu de comédien n'est pas dans la bonne rythmique, on ne peut pas l'améliorer au montage. C'est très difficile. Donc dans tout, dans la façon de tourner, dans les plans qu'on déjà monte dans nos têtes, même si après on améliore au montage, le rythme est omniprésent, donc la musique de l'image, si je peux dire, la musique des dialogues, la musique même des bruits aux alentours, sont omniprésents dans un film. Le film, un mauvais rythme dans un film, détruit tout de suite le film et détruit le lien entre le spectateur et l'écran.
Le deuxième film que vous avez présenté pendant la rencontre au cinéma de Pesnas, c'était La Source des Femmes. Ouais. Alors on est sur autre...
J'aime beaucoup voyager, aller d'un sujet à l'autre. Et presque pendant la réalisation d'un film, j'aime apprendre. C'est-à-dire je ne vais pas juste raconter aux autres quelque chose, comme si je savais tout. Un film m'oblige moi-même, comme je suis entre guillemets aussi un journaliste, m'oblige à aller au fond de mes sujets, donc d'apprendre parfois beaucoup plus que je ne savais en abordant le sujet. Donc La Source des Femmes, ce fut un de ces cas formidables, c'est-à-dire le challenge que je me suis imposé de raconter à travers des voix féminines. Je ne suis ni femme, je ne suis pas musulman, je ne vis pas dans un petit village dans un des pays du Maghreb, donc je me suis imposé d'essayer de me glisser avec le plus de justesse dans leur subjectivité. Et moi, je trouve que dans la vie, en tout cas ma vie, mes plus beaux voyages sont des voyages à l'intérieur des subjectivités d'autres gens. C'est-à-dire d'essayer de comprendre comment eux y pensent, comment eux y voient le monde, et ne pas penser que c'est moi qui ai la seule référence de point de vue sur le monde. Ce voyage-là, dans une infinité de subjectivités, est pour moi le plus beau des voyages.
C'est un film qui est assez surprenant. Enfin, moi, personnellement, si vous voulez, par rapport aux informations que je pouvais avoir, on y découvre énormément de choses. On y découvre des gens avec une richesse insoupçonnée. Comme on les regarde de tellement loin, sans doute avec beaucoup de préjugés, d'a priori.
Tout à fait.
Ce film démystifie quoi, un certain nombre de choses. pour aller à l'essentiel, c'est que quel que soit l'endroit, le pays, la culture, il y a quand même un fond commun, l'humain.
Ah, il y a un fond commun, l'humain, et il y a un autre fond commun, le rêve de liberté, le rêve de justice. C'est-à-dire l'histoire, elle est très simple, c'est-à-dire des femmes qui, depuis des siècles, vont chercher l'eau à la source en haut de la montagne et qui se blessent, qui se font mal, qui perdent des enfants qu'elles portent, alors que les hommes sont tranquilles en bas au village, souvent au café. Donc c'est un film sur l'injustice et sur le combat de ces femmes merveilleuses pour avoir un équilibre dans la société, dans leur société villageoise, rurale. Et ça me semblait un sujet formidable parce qu'il m'offrait aussi l'occasion, comme vous dites, de quitter les clichés qui pullulent en Occident et de montrer une gamme très très riche d'opinions, de points de vue, de façons de vivre, de penser, la culture, l'inculture, le simplisme aussi là-bas, beaucoup de nuances de personnages qui existent partout. C'est-à-dire nous on les simplifie, on met tout le monde dans le même cadre, alors que partout dans le monde il y a énormément de nuances et de richesses humaines. Donc voilà, c'est ce qui m'a intéressé à travers ce combat féminin que je trouvais formidable.
À propos de ce film, on dit qu'il a une tonalité à la fois grave et joyeuse, mais j'ai l'impression aussi que c'est quand même quelque chose qui habite l'ensemble de vos films.
Oui, oui, oui.
À la fois grave par les sujets, par les thèmes qui sont abordés, mais toujours avec ce souci d'une pointe d'humour, de pas tomber dans le pathos, de faire de vos films quelque chose qui s'adresse aux sensibles, mais aussi quelquefois joyeux.
Tout à fait. Maintenant, je ne le fais pas non plus consciemment et ce n'est pas une réflexion profonde. Je suis comme ça. Et j'ai l'impression que la vie, la mienne et celle de ceux qui m'entourent, elle est comme ça. Elle n'est pas faite que de noir ou que de blanc. Elle est faite de nuances. C'est-à-dire parfois, au pire des moments tragiques, des gens sortent des blagues complètement idiotes et stupides par rapport à la situation, mais qui nous allègent la tristesse. Et le monde est fait, comme le cinéma, est fait de lumière et d'ombre. Donc, il me semble naturel, en tout cas, par rapport à ce que je suis, de mélanger tout ça. De ne pas dire, je fais qu'une tragédie grecque, je ne saurais pas en faire et je ne ferai pas aussi bien que les auteurs grecs. Une comédie pure, pure, sans tragédie derrière, pareil, ça ne me correspond pas. Ce n'est pas ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vécu, par exemple, sous la dictature, c'était terrible. C'est-à-dire, à tout moment, on pouvait nous emprisonner, nous tuer, nous condamner à mort. Et pourtant, la Roumanie de l'époque de ma jeunesse, c'était le champion du monde de blagues. Parce que quelque part, on luttait contre la peur de la mort et de la prison par l'humour. Donc, dans mes films, se retrouvent toujours ces contrastes-là. Dans les pires situations, je sors une blague, aussi donner peut-être aussi une respiration à la gravité et jouer aussi avec la concentration du spectateur, même si, encore une fois, ce n'est pas réfléchi, ce n'est pas une technique. C'est tout à fait naturel. Et par exemple, dans le concert, quand vous avez des moments de grande tension et sensibilité à la fin, je casse ça parce que je sais qu'il ne faut pas que ça soit non plus interminable. Et c'est aussi une pudeur de ma part. Je casse ça par une blague qui est parfois stupide, mais juste pour donner une respiration. Et est-ce que aussi, à l'intérieur de moi-même, c'est pour dire à la tragédie, mais tu ne gagneras pas. Tu ne pourras pas gagner. Il y aura toujours cette fissure à travers laquelle la lumière va s'engouffrer.
C'est un acte de résistance nécessaire à la survie.
Moi, je pense, mais on est tous comme ça, je crois. Je crois qu'on est tous dans des moments les pires, sauf quand on tombe dans des déprimes, ce qui peut arriver aussi. On essaie de se défendre et de refaire surface par un geste d'humour ou un geste anodin ou par un geste d'amour. Mais on a besoin de ça, on a besoin de rupture, disons. Et même souvent quand on est que drôle, parfois il y a quelqu'un qui nous renvoie quelque chose à la figure. Et voilà, on a toujours les nuages, le soleil, la pluie, il y a de tout.
Le troisième film que vous avez présenté, c'est « Va, vis et deviens ». À l'origine de ce film, il y a une rencontre avec des immigrés éthiopiens, ouais. Rencontre que vous avez faite
à Los Angeles.
Ah bon ?
Non, le premier, j'ai rencontré à Los Angeles. Et après, il m'a raconté sa vie qui n'est pas du tout celle du film, mais qui m'a tellement frappé, tellement bouleversé, que j'ai voulu en savoir plus. Et au début, je n'étais pas sûr de faire un film. Je voulais juste pour ma connaissance personnelle. Je ne connaissais rien de l'histoire des Juifs éthiopiens. Et j'étais étonné qu'on connaisse aussi peu dans la société, qu'il y avait très peu de livres, absolument pas de films, quasiment pas de documentaires. Il y avait des photos qui avaient été faites. Donc je suis parti à l'aventure de la connaissance d'abord. Et plus j'avançais, plus j'étais ému, bouleversé et presque révolté. Qu'on les considère inférieurs et qu'on ne considère pas utile de raconter leur histoire. À nouveau, j'ai embarqué mon meilleur ami, Alain Michel Blanc. On est parti en Israël. On a refait les journalistes et on a interviewé beaucoup, beaucoup d'Éthiopiens avec leurs histoires tragiques et énormément de gens qui avaient participé à cette opération incroyable qui s'appelait Opération Moïse, qui ont sorti en 84-85, qui ont sauvé des Juifs éthiopiens qui passaient d'Éthiopie par le Soudan dans les camps de famine, tout ça. Et ça a été pareil, une période extrêmement riche humainement pour nous. On se disait tous les jours, même si on arrive à faire un mauvais film, ce n'est pas grave. Nous, on est sortis enrichis de toute cette histoire-là. Et effectivement, ces gens-là sont merveilleux. Voilà. Ce film-là, pour moi, ce n'est pas qu'un film. C'est une parenthèse de ma vie extrêmement riche.
À plusieurs reprises, vous avez évoqué cette approche journalistique que vous avez des choses et que l'on retrouve dans la préparation des films. Les thèmes, les sujets, les idées qui habitent vos films sont importants. Mais on parlait tout à l'heure de l'importance de la musique. Moi, je voudrais aussi parler de la beauté des images.
On porte un soin particulier à tout, mais effectivement, la musique, les dialogues, les acteurs doivent être formidables, doivent être profonds, avoir beaucoup de nuances. Et l'image, moi, j'ai toujours été adepte, même si je fais des films, je ne sais pas comment les définir, humanistes, politiques, émotionnels, etc. Je viens de l'école de ceux que j'ai admirés, qui sont Costa-Gavras, Lelouch, Berman, tous ces gens-là, à travers ce qu'ils faisaient, offraient quand même au spectateur un spectacle. C'est-à-dire, je suis conscient que le spectateur paye de plus en plus cher pour aller au cinéma, donc il faut lui offrir aussi un spectacle, pas seulement des pensées abstraites, absconses, qu'on comprend nous-mêmes et personne d'autre. Donc je fais énormément d'attention, effectivement, à l'image, à tout, au son, à la musique, mais l'image est très importante, parce que d'abord, elle me bouleverse moi-même. Donc quand je fais des repérages, par exemple, des décors, avec mon chef opérateur, les décors, je ne choisis que les décors qui m'impressionnent, et où je me dis ça, un spectateur va prendre du plaisir autant que moi, de le découvrir, et après je travaille avec le chef opérateur, est-ce qu'on éclaire certaines choses différemment, les intérieurs, la beauté des acteurs et des actrices, pareil, il faut étudier, je prends des photos de tous les visages dans tous les angles, pour savoir aussi chaque acteur, chaque actrice, quel est l'angle favorable et quel est un angle moins favorable par rapport à leur visage, quel est le plus beau regard qu'ils puissent avoir, quelle est la lumière qui leur convient le mieux. Donc tout ça, c'est très soigné, parce que nous sommes des passeurs. Nous sommes des passeurs et notre but, c'est que le spectateur fasse un voyage merveilleux. En même temps qu'on lui transmet une histoire, des idées, mais on ne peut pas lui transmettre que ça. Il faut que le voyage, il paye cher aujourd'hui, faut qu'en sortant de la salle, il se dise « Waouh, j'ai fait un très beau voyage, ça méritait les 10 euros, 13 euros, ça dépend combien ça coûte ». Que j'ai payé et j'ai appris quelque chose. Donc voilà, mais tous les éléments sont importants et tous les éléments, comme dans une musique, comme dans une symphonie où il y a tant d'instruments, tout doit être harmonieux. L'harmonie, c'est exactement le même mot au cinéma. Nous avons, au lieu d'avoir des violons, des trompettes, des contrebasses, etc., nous avons la lumière, le son, la musique, les costumes, les décors, les acteurs, etc., etc. Ce sont nos instruments.
J'évoquais tout à l'heure le contenu, le fond de vos productions cinématographiques. Mais je pense quand même que la forme est excessivement importante.
Toujours.
On voit énormément de rigueur, on voit énormément de minutie, dans cette façon d'assembler des éléments comme l'image, les éclairages, le jeu des acteurs, la musique. Moi, j'ai eu le sentiment que rien ne venait du hasard. J'ai l'impression que tout ça, c'était
c'est très...
Même si au départ, on trouve, si vous voulez, une spontanéité liée à votre personnalité. Il me semblait que tout ça, c'était aussi quand même très, très, très réfléchi. Et je pense que c'est ça qui renforce les émotions que le spectateur peut avoir par rapport au thème que vous traitez.
C'est possible, mais je vous donne un exemple. Le cinéma, on sait, c'est une grammaire. C'est-à-dire, la caméra, c'est un stylo. On écrit avec la caméra, et à chaque fois, la question se pose, et je vais vous donner un exemple, une comparaison entre le concert et La Source des Femmes. Donc, je fais le concert, je voulais que ça soit un film ample. Donc, d'une mise en scène ample, on peut simplement à l'américaine, parce que c'était un sujet avec beaucoup de personnages qui se baladaient entre la Russie et la France, etc. Donc ça devait être en scope et avec des mouvements de caméra ample. Donc j'ai tout le matériel qu'il faut, les grues, etc., etc., pour créer cette ambiance et pour faire inviter le spectateur dans ce qu'on appelle, entre guillemets, un grand film. Ensuite, je fais La Source des Femmes. La Source des Femmes, je sais que le sujet et les personnages, par pudeur et par respect au village, je ne vais pas amener ce matériel-là et je ne peux pas faire la même mise en scène. Je dois faire une mise en scène en respectant ce que mon histoire est, ce que ces personnages et ce que le village est. Donc quelque chose de minimaliste, proche des gens. Caméra à l'épaule, comme si c'était un documentaire, comme si je saisissais leur vie et que je n'étais qu'un spectateur objectif avec ma caméra. Donc l'écriture cinématographique, elle est différente, et j'invite le spectateur à vivre dans le village, de cette manière-là, comme si la caméra était son œil à lui, son œil subjectif. Donc voilà, c'est deux écritures cinématographiques très différentes, mais je suis toujours le serviteur de mon sujet. Va vie et devient, c'est un mélange des deux. Va vie et devient, le film commence d'une manière très épique. C'est-à-dire, on commence comme si on filmait Moïse sortant d'Égypte. Donc, c'est un nouveau scope. La musique, elle est biblique, quelque part. La sonorité de la musique avec cette voix de femme. Et après, doucement, doucement, je serre le sujet, puisque c'est la vie de cet enfant. Et je deviens un peu plus proche de lui, un peu la caméra à l'épaule. Mais je combine entre les deux, parce que c'est quand même une épopée 17 ans de la vie d'un enfant. Donc je combine et l'épique, le scope avec des gros moyens, et l'intime de temps en temps, en faisant gaffe que ça ne soit pas choquant le passage de l'un à l'autre. Mais je sais dès le début que le sujet me demande cette écriture cinématographique. Donc effectivement, oui, chaque sujet appelle et on réfléchit à la typologie de mise en scène.
Les trois films, ils font tous plus de 2 heures.
Oui, c'est mon défaut.
Ça n'a pas été gênant quelquefois, ça
Ça a été grande discussion, surtout pour Vavier Devien, qui fait 2h26. Il y a eu même pour vous dire, des fortes tensions. Le film devait être allé au Festival de Berlin. Donc avant le festival, un tas de partenaires financiers, mes producteurs, même, me mettaient énormément la pression pour couper une demi-heure. Et je leur disais, je ne peux pas, c'est ce que l'histoire m'impose. Et effectivement, c'est mes défauts de raconter des histoires un peu longues. Et après, j'ai un credo, je ne sais pas s'il est valable ou pas. Moi, je me dis toujours, un bon film, même long, ça reste un bon film. Parfois, si on impute un film d'un pied, d'un bras, on le sentira, il deviendra mauvais. Alors qu'un film très court, s'il est mauvais, il est long. Et la preuve, bon, pour l'instant, je touche du bois, l'histoire m'a donné raison. Donc, Vavier devient, Berlin, les gens étaient debout. Et j'ai soufflé, puisque c'était la première projection publique. On a eu 3 prix derrière. Donc voilà, et j'y crois toujours. Mais effectivement, comme je prends le temps de développer les personnages, de développer l'histoire, j'ai plutôt tendance à faire des films autour de 2 heures et quelques.
Ces trois films vous ont permis d'être présent dans des manifestations liées au cinéma comme le Berlin.
Berlin, Cannes, Venise.
Venise, enfin les trois grands. Quoi.
Oui, il manque Toronto. Si, je suis allé une fois vers Toronto. Et c'est les trois grands. Après, il y a Saint-Sébastien, mais bon, qui est moins important. C'est important pour le marché espagnol d'Amérique du Sud. Ça, je suis jamais allé. Et j'ai été aussi à un festival que j'aime énormément, qui est Sundance, le festival de Robert Redford. Ils m'ont invité deux fois, et une fois, on a gagné le prix du public avec Train de vie.
Oui, Train de vie qui a été un de vos premiers films. Donc le premier,
c'est le deuxième. Le premier, c'est Trahir.
Le contexte actuel, en particulier au Moyen-Orient, ne vous donne pas matière à envisager de traiter ces problèmes-là, ou vous pensez les avoir déjà traités?
Disons, le monde d'aujourd'hui est très inquiétant. Et je suis dévasté. Parce que j'ai l'impression, d'une part, de vivre l'histoire de mes parents, c'est-à-dire les années 30, qu'on vit partout. On voit l'extrême droite monter partout et que ça semble normal, comme dans les années 30, ça semblait normal et qu'on avait l'impression qu'il y avait un tsunami qu'on ne pouvait plus arrêter. Et là, on a la même impression. Aujourd'hui, il y a des élections en Allemagne. C'est très dangereux ce qui risque de se passer dans ce pays qui a quand même déjà déclenché une seconde guerre mondiale. Donc le Moyen-Orient, les élections aux États-Unis, l'Europe qui devient de plus en plus brune. Voilà, le monde entier m'inquiète et je ne sais pas si j'en ferai un film là-dessus. En tout cas, de mes inquiétudes naissent souvent des films ou des sujets justement pour me battre, pour convaincre les gens que la démocratie, le vivre ensemble, c'est mieux que la haine. Mais aujourd'hui, je sens qu'il y a une forte énergie négative. J'ai l'impression que les gens ont oublié l'horreur de la guerre, la barbarie, et qu'ils ont envie de découdre, d'en découdre. Et je me demande, mais pourquoi ils ont oublié l'horreur que c'est? Est-ce qu'ils ont besoin de passer à nouveau par l'horreur pour se rendre compte par la suite que le vivre ensemble, c'est 10 fois mieux, qu'après, on a tous des défauts, mais qu'il faut être assez tolérant? Donc, le Moyen-Orient, ça m'inquiète. Ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est exactement ce qu'ont vécu mes parents en 1941, où il y a eu un pogrom en Roumanie, et ils ont échappé au dernier moment. Il y a eu 8000 morts à l'époque. Donc, je me dis, mais on revient aux mêmes barbaries. On revient, et où le faux devient vrai, tout est complètement, toutes les valeurs sont renversées. Et donc, je me pose la question pour mes enfants, et j'ai des petits-enfants, mais quel monde je leur laisse? J'en suis responsable. Quel monde je laisse à ces gens-là qui ouvrent à peine les yeux, qui ont des sourires merveilleux et qui pensent arriver dans un monde merveilleux? Et en fait, moi je sais que ce monde peut être terrible. Donc mon devoir, c'est d'essayer autant que je peux d'apporter la lumière et de dire non, c'est mieux la lumière et le merveilleux que la haine, que de vouloir en découdre avec tous les autres. Mais je suis très inquiet, donc forcément de mes inquiétudes naîtront des sujets.
Radu est mis à nous, décidément.
Non, mais je suis là pour vous aider.
C'est gentil, parce que j'en ai vraiment besoin. Merci beaucoup de nous avoir consacré un moment de votre matinée. Et puis, à bientôt pour une nouvelle œuvre sur les écrans.
Avec grand plaisir.